bien la distinction entre les deux, puisque c'est deux fonctionnements et deux types d'habitats qui n'ont pas les mêmes principes. La démarche est la même. Cécile, donc, et avec Stéphanie qui est là-bas aussi, hein, et puis le petit bout de Cécile dans le bras, font partie donc, de ces familles qui sont en train de construire donc, une coopérative d'habitants à Beaumont-sur-Lèze. Je les ai rencontrées il y a déjà un petit moment de ça, par l'intermédiaire de l'autre personne qui est aussi dans la coopérative, qui est impliquée aussi dans la coopérative. Voilà, donc là, elle va vous expliquer un peu tout le cheminement, hein, qui est quand même pas... Il faut être patient, il faut accepter que ça peut prendre du temps, que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Là, ça y est, ils vont démarrer leur construction, donc c'est bien, ça prend forme. Donc elle va vous expliquer tout ça, et donc, pendant à peu près 45 minutes, hein, puis comme d'habitude, après, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Au niveau administratif, au niveau législatif, au niveau de tout ça, hein, c'est pas si évident que ça à comprendre. Avant que Cécile ne commence, juste une chose, on va bientôt faire appel à tout le monde pour concevoir notre programme de 2018-2019. Donc on va faire appel à vous pour les idées que vous pourriez avoir, hein, les suggestions, les envies. Alors, vous rappelez qu'en général, quand vous faites une suggestion, ce qui est bien, c'est que vous ayez bien sûr le sujet de la conférence, mais aussi une idée conférencière, parce que c'est quand même ce qui est le plus compliqué à trouver. Hein, mais on est preneur de toutes les idées possibles que vous puissiez avoir. Voilà, donc je vais laisser Cécile démarrer. Et puis, je vous dis à tout à l'heure.
Bonsoir. Bravo d'être sorti de chez vous, déjà. Franchement. Bravo, merci. Et merci à Pupambol aussi de nous avoir invités. C'est la première fois qu'on fait ça, on fait notre crash test sur vous. Voilà, j'espère que vous allez être indulgents. Donc effectivement, pour parler de la coopérative d'habitants, quand Catherine nous a dit « Est-ce que ça vous dirait de venir ?» On ne savait pas trop à quoi on s'attendait, mais on a dit « Oui ». C'est un mascop, c'est un peu ça. On dit souvent « Oui ». Quand on nous demande d'aller parler d'habitat participatif en général et de la coopérative d'habitants en particulier, on dit oui, on considère qu'on plante des graines. Et voilà, un jour il y aura plein de coopératives d'habitants partout et que tout le monde s'en portera que mieux. Et les individus et la planète. Hein. Donc MASCOP, c'est un habitat participatif, au départ. C'est-à-dire qu'on gère à plusieurs des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Non, pardon, c'est pas ça. On gère à plusieurs un lieu, un espace, un projet aussi. Et donc, ça demande, comme disait Catherine, du temps. Parce qu'en fait, on se réunit, des individus qui ne se connaissent pas, se réunissent pour créer un projet de vie. Donc, c'est assez... particulier comme envie pour combler ses soirées. Et donc, on se réunit en général sur des valeurs. Chacun se réunit sur les valeurs qu'il souhaite. Nous, on appelle ça une charte ou une raison d'être. Voilà, il y a plusieurs thèmes qui sont sortis par rapport à cette façon de vivre ensemble. Nous, on s'est réunis autour de ces cinq valeurs. Donc, solidarité, mixité générationnelle, mixité sociale, écologie et partage. Il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre, etc. Tout doit être bien en symbiose. La solidarité, on la voit par exemple dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité financière entre nous. Je vous expliquerai dans le montage de la coopérative d'habitants. Mais nous, le principe, c'est que chacun puisse y habiter avec ou sans apport, et quelles que soient ses conditions de ressources. Donc, je reviendrai après dessus. L'écologie, ça c'est commun à quasiment tous les habitats participatifs et en particulier aux coopératives d'habitants, c'est de vouloir construire des logements sains avec des matériaux biosourcés, économes à la construction et à l'usage aussi. Voilà, c'est une valeur forte. Mixité intergénérationnelle, voilà, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec une bande de quarantenaires et puis vieillir, devenir une bande de seniors et puis.
De 70 ans, c'est ça quoi.
Même pire. Et on veut mixer, voilà. C'est-à-dire que moi, voilà, par exemple, j'ai des enfants, leurs grands-parents ne sont pas dans la région. Je veux qu'ils puissent côtoyer, pas des papy-mamies, mais qu'ils puissent côtoyer des personnes de l'âge de leurs grands-parents qui vont leur apprendre des choses que moi, je ne leur apprendrai pas parce que je n'ai pas le temps ou que ça ne m'aurait pas l'idée de leur transmettre ça. Et vice-versa, pour des personnes plus âgées, aussi d'avoir comme ça des plus jeunes à enrichir, à planter des graines aussi. Mixité sociale, clairement, on ne voulait pas que ce soit un truc de bobo écolo, voilà. Dans le groupe qui constitue Mascop, voilà, il y en a qui ont grandi en cité dans le 93, d'autres en campagne dans l'Aveyron. Voilà, le truc, c'était de faire que toutes ces différences sociales et culturelles s'unissent pour faire naître le projet. Le partage, parce qu'on va partager des espaces, c'est-à-dire qu'on va mutualiser des pièces comme les chambres d'amis, on n'aura pas chacun notre chambre d'amis, mais des chambres d'amis qui vont servir à plusieurs personnes. Le partage aussi au quotidien, c'est-à-dire je pars, je vais à l'école, j'emmène mes enfants, mais j'emmène aussi des enfants, des voisins, etc. Partager aussi des bons moments, dire tiens voilà, j'ai une bonne nouvelle et j'ai envie de fêter ça avec mes voisins, tant que ce soit une contrainte, hein, on n'est pas obligé de tout fêter avec ses voisins, on peut aussi ne pas voir ses voisins si on n'a pas envie de les voir ce jour-là. Mais voilà, c'est d'avoir ces valeurs-là en ligne de mire, et ça doit être un peu la pierre angulaire de l'habitat participatif. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait dans le projet en disant ouais, moi l'écologie, franchement, et bien rapidement, en fait, il ne trouverait pas sa place. Ça va être une motivation commune. Il faut que j'attrape ce truc là. Voilà. Donc c'est une coopérative d'habitants. Alors ça va peut-être être un peu petit. Ah ouais, c'est carrément petit. C'était pour dire, ce n'est pas de l'habitat individuel, on n'est pas chacun chez soi. C'est pas une copropriété non plus, même si on va tous être propriétaires collectifs. Je vais revenir aussi dessus. C'est pas une communauté, mais c'est chacun un logement individuel et une maison commune où on partage justement les pièces qu'on n'aura pas chez soi. Par exemple, mon atelier bureau chambre d'amis, c'est pas une pièce que j'ai chez moi, c'est une pièce que j'ai dans la maison commune. Donc au lieu de servir une fois tous les X, ça sert beaucoup plus souvent puisque c'est une pièce qui est mutualisée. Donc ça, c'était pour faire la différence avec les autres formes d'habitat groupé qui peuvent exister. Vous pouvez par exemple avoir des copropriétés où tous les copropriétaires s'entendent très bien et vous disent « Ah, mais nous aussi, on fait l'habitat participatif dans ma copropriété. » Certes, tant que la copropriété est faite avec ces personnes qui s'entendent bien, hein, ça peut marcher. Le jour où il y en a un qui s'en va ou qui, pour X raisons, a une autre vision de la vie en copropriété peut être beaucoup moins sympathique. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on est en coopérative d'habitants. Donc la coopérative d'habitants, c'est on en parle là, mais en fait, c'est une vieille idée. On fait du neuf avec du vieux, c'est du recyclage. Ça a été créé en fait au 19e siècle, au départ, par les syndicats ouvriers qui ont créé la coopérative d'habitation à l'époque pour empêcher les expulsions d'ouvriers. Et donc, en fait, ils rachetaient des petites maisons toutes simples, et au fur et à mesure, l'ouvrier payait son loyer et devenait propriétaire. Donc, ça, les premières sociétés d'HLM, en fait, d'habitat coopératif, c'était ça. C'était les précurseurs de la location-accession, on pourrait dire. Au bout de X temps de location, la personne devenait propriétaire de son logement. Ça a été aboli, on va dire, par la loi Chalandon en 71, qui a mis fin aux coopératives d'habitants. Alors ailleurs dans l'Europe, ça a prospéré, mais nous, ça s'est arrêté. Et en 2014, il y a eu la loi Allure, qu'on connaît beaucoup pour l'encadrement des loyers, etc., etc., mais qui a aussi ouvert un vrai cadre législatif à l'habitat participatif, et notamment à la coopérative d'habitants. Alors ça, c'était la version toute belle sur le papier. L'envers du décor, c'est que pour que la loi soit appliquée, il faut que les décrets d'application soient publiés. Et donc là, c'est en 2014, on est en 2018, les décrets d'application ne sont pas encore tous publiés, surtout ceux qui concernent la coopérative d'habitants. Voilà. Parce que, notamment dans la coopérative d'habitants, il y a une partie apport en industrie, c'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait pas de finances, qui voudrait entrer en coopérative d'habitants, on pourrait lui dire, eh ben, ok, t'as pas de fonds, mais t'as du temps, et je sais pas, t'es loué avec un rouleau, eh ben, tu donnes de ton temps, tu peins les logements, et c'est ton apport. Donc là, les lobbies du bâtiment ont dit, oh là là, ça va être que du travail au noir, hein, donc... Donc, les décrets n'ont pas été votés. Et un autre décret qui serait pourtant bien pratique, qui concerne la garantie financière. C'est-à-dire que quand on fait un projet comme ça, et ben les banques, quand même, qui ne sont pas trop philanthropes, demandent des garanties financières qui nous obligent à faire des montages. Du coup, c'est des vraies usines à gaz. Alors, aucune assurance ne veut prendre le risque d'assurer ça, de dire, ok, c'est des gens qui vont aller jusqu'au bout. Et qui, par leur loyer, vont rembourser, parce que c'est assez simple, quand on regarde le montage. Donc voilà, ça c'est deux points bloquants, qui font que quand on veut quand même faire des coopératives d'habitants, on passe par une loi, la loi de 67, sur les sociétés anonymes par action simplifiée, donc une société commerciale, auquel on ajoute coopérative, et du coup, on peut monter sa coopérative d'habitants, en étant enregistré au registre du commerce, voilà. Bon, on crée une entreprise, en fait, qui est vouée à ne pas être lucrative et qui servira de cadre juridique, en fait, pour la coopérative d'habitants. Donc, pareil, là, quand on parle de partage, dès le départ, quand on veut partir en principe de coopérative d'habitants, la solidarité, on la voit tout de suite. Parce que, comme je disais, pour avoir le foncier, etc., il faut quand même avoir une petite mise de départ. Et donc, il faut qu'il y ait des gens avec de l'argent. Et il faut aussi des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc, ceux qui ont de l'apport vont donner pour leur logement, mais vont donner plus pour permettre à ceux qui n'ont pas d'apport d'intégrer le projet. C'est pour ça que là, c'est important, au départ, d'être d'accord sur ce qu'on veut faire. Parce que un des points essentiels de la coopérative et qui fait que nous à Mascop, quand on a décidé de monter un projet d'habitat participatif, on a dit on le fera en coopérative d'habitants, c'était la non-spéculation. C'est-à-dire que nous on veut remettre le logement à ce qu'il est, c'est-à-dire un droit et pas un moyen de faire de l'argent facilement. Donc c'est-à-dire qu'on prend des parts sociales dans une société. Oui, Martin. Et ensuite on va revendre ces parts sociales. On ne va pas revendre un logement. Donc, il n'y aura pas de plus-value dessus. Donc, ça, c'est une gymnastique à faire pour l'habitant. Voilà, de se dire, je suis dans un logement, je serai locataire. Voilà, même si j'ai mis un apport, même si je serai locataire. Mais je suis propriétaire collectif, en fait, de l'ensemble du bien. Donc, ça compte, par exemple, dès la conception des logements. Je conçois un T4 parce que je me tiens, hein, ce sera peut-être moi dedans, mais je suis attentif aussi au T2 parce que quand les enfants partiront, j'ai aucun intérêt à rester dans un T4, plutôt à aller dans un T2. Je laisse mon T4 à une autre famille comme ça pour maintenir l'intergénérationnalité aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait dans ce sens-là. Alors, quand je disais, nous en France, on a été un peu bloqué par la loi Chalandon. En Europe, quand même, c'est quelque chose d'assez commun. En Suisse, au Danemark, la coopérative d'habitants, c'est à Zurich, je crois, c'est 20% du logement locatif, c'est de la coopérative d'habitants. Et donc, il y a suffisamment de coopératives pour qu'on puisse déménager de coopérative en coopérative. Nous, si on voulait le faire sur le département, là, il y a 3 coopératives d'habitants en Haute-Garonne. Donc il y en a une à Caserre, il y en a une à la cartoucherie à Toulouse, là, ils sont en train d'emménager là, en ce moment. Et voilà, et nous, Mascop, on est la 13e coopérative d'habitants au niveau national. Donc il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça pousse derrière et voilà, on espère bien qu'il y en ait de plus en plus. Parce qu'en fait, Le principe, pourquoi en fait choisir de s'enquiquiner, j'allais dire, à créer une coopérative d'habitants pour vivre en coopérative d'habitants, c'est que vraiment, on soustrait le logement de la spéculation, donc déjà ça redonne le droit au logement, et ça permet à des foyers qui n'auraient pas pu habiter des logements de qualité d'y avoir accès. Par exemple, des retraités qui ne pourraient plus emprunter à la banque, ou des jeunes couples qui n'auraient pas d'apport, ils ne pourraient pas intégrer un logement voilà, avec les qualités qu'offre un logement en coopérative d'habitants, puisque là, en fait, c'est la coopérative qui emprunte. Donc quand la banque voit Mascop, elle ne veut pas savoir ce qu'a fait Cécile, combien elle gagne, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle fait, combien elle gagne. Elle voit une société qui a tel plan, qui va faire tant de chiffres d'affaires. Et donc, ça, pour les banquiers, c'est aussi une gymnastique. Hein, voilà, on nous l'a suffisamment dit. Ah oui, non, ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Ça me regarde pas. Mais vous faites quoi ? Moi, je ne fais rien. Mais voilà, mais bon. Et ça, petit à petit, ça gagne parce qu'effectivement, quand ils ont une société, ça veut dire que quand même, derrière, il y a du travail qui a été fait pour voir si la société est viable, etc. Donc, voilà, l'équilibre se fait entre nous, en fait. Le risque que prend pas la banque, de dire de prêter à des gens sans savoir s'ils vont rembourser, nous, on le fait entre nous en disant, ok, moi, j'ai de l'apport, toi, t'as pas d'apport. On met chacun 20% de notre logement. Alors ça, c'est ce que fait, ce que demande une banque pour n'importe quel prêt, en fait. Il faut avoir 20% d'apport par rapport au prêt qu'on fait. Donc, entre nous, entre futurs habitants, on se compense les uns les autres. Et quand on n'y arrive pas, bon, parce que voilà, on a quand même du mal à tirer des gens riches en coopérative d'habitants. Bon. Et bien, du coup, on fait quand on emprunte cet argent. Donc ça veut dire que ça va être remboursé sur plus longtemps. Mais voilà, l'idéal, c'est quand même de se compenser les uns les autres. Et du coup, déjà, de se tester aussi. C'est-à-dire de dire, je crois dans le projet, ok, je mets mes 20%, j'ai un peu plus, je le mets aussi, comme ça, toi, ça te permet aussi d'être dans ce projet, parce que c'est de la diversité qui va faire que notre projet va être riche. Si on n'est qu'un projet de semblable, on risque de s'ennuyer au bout d'un moment. Donc nous, au départ, quand on a voulu lancer le projet, on a cherché un terrain grand, bien orienté pour faire du bioclimatique, près d'une grande ville, pas trop cher, bref. Et donc, près de Toulouse, j'avais oublié, près de Toulouse. Donc, on a cherché. On a retenu une centaine de lieux. Et c'est important, du coup, dans votre groupe, d'avoir des retraités et des chômeurs. Enfin, plus chez les petites annonces, aller visiter, tout ça. C'est pratique. Et puis, en plus, comme ça, ça fait deux coups d'œil sur la même projet, sur un même bien, c'est bien aussi. Et donc nous, on a atterri à Beaumont-sur-Lèze, voilà, où il y avait le terrain qui permettait la construction bioclimatique, qui n'était pas trop loin d'un centre-ville, pas trop loin de Toulouse non plus. On a vite rencontré le maire pour savoir à quel genre de maire on devait s'attendre. On s'était dit, si c'est un maire qui, voilà, qui nous mettra des bâtons dans les roues, etc., on cherchera un autre terrain, parce qu'on veut aller vite, on ne veut pas perdre de temps avec des recours, etc., etc. On est tombé sur un maire qui était plutôt enthousiaste à l'idée d'accueillir un habitat participatif, qui plus est en coopérative, parce qu'en fait, Beaumont, il n'y a que des propriétaires, et donc il y a très peu d'offres locatives, et donc du coup, il y a peu de jeunes qui y viennent, parce qu'il faut acheter d'emblée, et qui dit peu de jeunes, dit du coup peu d'enfants pour l'école, et qui dit peu d'enfants pour l'école, dit les classes qui ferment, et les écoles qui ferment, voilà. Donc, voilà, dès la première fois qu'il nous a rencontré, il a dit « Ok, vous m'amenez combien d'enfants pour l'école, là, tout de suite, et dans les 10 prochaines années ?» Pour ça, j'étais obligée d'en faire. J'ai promis au maire, et donc, voilà. J'ai obligée de m'y remettre, hein, sans souci. La coopérative d'habitants, c'est pas toujours drôle. Hein. Voilà. Donc, là, vous... Voilà. Donc, là, ça, c'est dans le carré, c'est donc le terrain qu'on a trouvé, donc qui était orienté plein sud, etc. Et donc nous on est parti dans le. Au départ on cherchait un terrain nu, etc. On s'est vite rendu compte que ça coûtait moins cher d'acheter un terrain avec déjà du bâti dessus. Un bâti dans lequel éventuellement on pouvait déjà habiter en colocation pour faire entrer un peu de sous dans la coopérative. Et aussi un bâti qu'on allait réutiliser après en maison commune. Parce qu'on fonctionne beaucoup avec d'autres projets et on se rend compte qu'une fois que chacun a fait sa maison, investi sa maison dans l'un. Eh ben, se dire on s'y remet parce qu'on a la maison commune à faire. Voilà, souvent la maison commune c'est un hangar et puis finalement on n'y fait pas tout ce qu'on avait envie de faire parce que tout le monde est épuisé par ses propres travaux, etc. Donc on s'était dit, si on peut trouver quelque chose qu'on puisse réutiliser après, ce serait très bien. Donc on est tombé sur cette, cette bâtisse qui fait 400 mètres carrés.
Ah oui.
Piscine chauffée, couverte.
Wow.
Voilà, voilà. Et voilà, quand on a reçu la banquière, on a dit voilà, c'est ici qu'on va faire du logement social. Donc. Et voilà, en fait, un coup de chance, ça appartenait à un entrepreneur du bâtiment, 74 ans, qui prenait enfin sa retraite. Et donc, en fait, il a construit sa maison lui-même le week-end, les vacances et tout. Donc, c'est très très bel ouvrage. Et en plus, qui était sensibilisé déjà à l'écologie. Donc, il a refait son isolation de chaud-chambre. La maison est chauffée par géothermie, avec voilà dans la prairie la géothermie court et ça chauffe la maison. L'eau chaude sanitaire, c'est des panneaux solaires qui chauffent l'eau chaude sanitaire et quand ça finit, ça chauffe la piscine. Voilà, il avait vraiment pensé. On se dit, c'est pour nous. Voilà. Quand on lui a présenté le projet, parce que voilà, coopérative d'habitants, c'est bien gentil, mais ça veut dire que déjà faut démarcher les banques, qu'elles aient confiance en vous. Donc, on lui a dit, on serait intéressé par votre maison, mais on ne va pas pouvoir vous la signer tout de suite. Donc ça, c'était en mars 2015. Et donc, on a négocié pour pouvoir la louer. Donc, à partir du mois d'août 2015, on a pu louer la maison. Bêtement, parce que c'était pratique. Nous, on s'était dit, si on redéménage encore une fois, c'est-à-dire que les enfants vont encore aller changer d'école. On avait quelques rentrées fatidiques, comme le CP, la 6e... On s'est dit que ce serait bien qu'ils restent dans les mêmes établissements. Donc, on a expliqué ça au propriétaire. Il m'a dit, mais oui, bien sûr, vous avez qu'à la louer. Donc on a loué en colocation, on était à 3 foyers. Mon compagnon, mes 2 filles, et Stéphanie, son mari et ses 2 enfants, et un retraité. Voilà. Donc on s'était réparti la maison commune. Donc on avait chacun une chambre, une salle de bain, et puis on partageait la cuisine, le salon, voilà. Donc, en sachant bien que ce n'était pas ce qu'on allait vivre après. Ça, c'est transitoire, c'est le crash test. J'ai fait de la coloc vaguement jeune, quoi, mais on a dit, voilà, on va voir si on se supporte en coloc. Ça veut dire que quand on sera voisin, on se supportera encore mieux, normalement. Donc, on a monté la coopérative, donc, créé les statuts juridiques, parce que ça aussi, c'est participatif, donc il faut s'y coller. Donc heureusement, entre coopératives, on est quand même assez coopératif. Donc on se passe nos statuts, nos astuces. Voilà, donc on a créé de jolies soirées à discuter statut juridique, c'est-à-dire à envisager le pire pour pouvoir à chaque fois contrecarrer dans les statuts pour pas couler la société. Parce que mine de rien, en fait, on a monté une société. Même si on ne fera jamais de profit, il faut quand même qu'on rentre dans nos frais, pas qu'on coule non plus. Et donc en décembre 2016, on a pu acheter. Donc ça veut dire que pendant un an et demi, le propriétaire était bien gentil à nous soutenir, enfin ça, il n'y avait pas de souci, il nous soutient toujours, et à attendre pour avoir enfin la vente de sa maison. Ses 2 fils étaient un peu plus pressés, mais lui, ça était cool. Donc voilà, ça c'est ce qui va donc devenir la maison commune, en fait. Et sur le côté, c'est le pigeonnier, clac, qui lui sera un logement. C'est le seul logement qui est déjà construit, en fait. Parce que le reste, on va faire construire 10 logements qui seront tous bioclimatiques. Donc ça faisait partie, nous, de notre cahier des charges, c'est-à-dire des logements bioclimatiques, construction saine. Donc on a travaillé avec un architecte qui est urbaniste et qui a déjà... qui a conçu 2 écoquartiers déjà. Quand il conçoit un écoquartier, il fait toujours le forcing auprès de la municipalité pour qu'ils mettent un petit pôle d'habitat participatif dedans. Parce qu'il dit ça va vous booster votre écoquartier, sinon vous allez avoir un lotissement vert, c'est tout, quoi, mais il n'y aura pas d'âme. Donc, voilà, donc Jean-Yves Puyot qu'on a choisi. On a répondu à l'appel à projet de l'ADEME et de la région, justement pour les bâtiments économes à énergie positive, qu'on a eu. Voilà, c'est une subvention, ça nous est toujours seulement à sortir. Et donc, on va avoir des logements ossature bois, isolation ouate de cellulose, des panneaux solaires encore pour l'eau chaude sanitaire, des panneaux photovoltaïques parce qu'on doit produire autant d'énergie que ce qu'on va consommer. Et là, en fait, on arrive à des logements qui vont être quasiment passifs. Tant mieux, parce que nous, on avait de la neige ce matin, quand même. Et donc, le souci qu'on a actuellement, c'est plutôt comment trouver un poêle qui soit suffisamment faible pour chauffer un T2 de 55 mètres carrés sans le surchauffer. Quoi. On est un peu dans cette problématique inverse de dire plutôt avoir trop chaud que froid. Donc voilà pour la conception on va dire, architecturale. Donc là, ça c'est pareil, c'est un travail qu'on fait le groupe tous ensemble. Donc ça veut dire qu'on doit aussi avoir des outils de communication interne, de prise de décision, puisque dans la coopérative d'habitants, chacun a le même poids. C'est-à-dire que celui qui a une part sociale ou celui qui en a 100, quand il faut prendre une décision, on a tous le même poids. Donc ça veut dire que nous, par exemple, on prend nos décisions au consensus, donc c'est long. du coup, si quelqu'un n'est pas d'accord, il doit proposer une autre solution et on en rediscute jusqu'à ce que tout le groupe soit d'accord sur les décisions à prendre. Donc ça peut être aussi bien sur... ouais, c'est pas facile. Mais après, on devient bon. Après, c'est encore plus rapide. Mais au début, effectivement, voilà, il faut permettre l'expression de chacun. Nous, on avait choisi de s'accompagner d'un professionnel. Voilà, dès le départ, on a dit on paiera quelqu'un de l'extérieur du projet pour nous donner des outils, pour nous dire aussi non, là, quand vous faites ça comme ça, ça va pas du tout, vous devriez plutôt faire comme ça. Donc voilà, on avait quelqu'un qui assistait à nos réunions. Un week-end par trimestre, on se téléporte, on prend un gîte grande capacité, histoire d'être tous ensemble pour se vivre un peu plus au quotidien que se vivre sur un temps de réunion. C'est vrai qu'on est temps de réunion, si on est mal luné, si c'est un sujet qui nous stresse ou quoi. Bon. Là, sur un week-end, on peut être mal luné tout un week-end, quand même. Et lui venait aussi, et du coup on travaillait des notions qu'on n'a pas forcément le temps de travailler en réunion, comme justement le partage. Oh, ouais, le partage, moi je veux partager. Mais concrètement, qu'est-ce que tu veux partager, comment tu veux le partager, jusqu'à quel point tu veux le partager, et voilà, de voir ce que chacun met derrière les mots. Des fois un week-end c'est pas de trop, c'est des choses sur lesquelles on revient. On essaye après de l'écrire, c'est-à-dire je veux bien prêter mes outils. Après, il y a celui qui dit « je veux bien prêter mes outils, mais je veux bien prêter mes outils si ». Et donc tout ça, après, on fait une espèce de charte. Il y a les outils qu'on prête qui sont à disposition et que chacun prend. Il y a ceux qu'on peut utiliser, mais d'abord, je te montre comment ça marche. Et aussi de mettre noir sur blanc, qu'est-ce qui se passe si l'outil est cassé. Voilà, des choses de mettre très claires dès le départ. Toujours penser au pire. C'est un peu ça. C'est toujours à chaque fois de se mettre dans... oui, mais s'il y a un ronchon, oui, mais voilà, toujours penser au pire pour que ça se passe pour le mieux, quoi. Donc, je vous disais, oui, une personne, une voix, ça veut dire aussi... comment je dirais ça ? Que dans les prises de parole, il faut être attentif à ce que ce ne soit pas tout le temps le même qui parle et qui parle au nom du groupe. C'est-à-dire qu'il... voilà, alors un œil extérieur, pour ça, c'est bien aussi... de solliciter l'avis de tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui oui, mais ça me va, et puis quand on gratte un peu, en fait ça va pas si bien que ça, et de pas laisser ces désaccords en disant on verra plus tard, en fait non, de toujours aller chercher les gens soient vraiment conscients de l'enjeu qu'il y a derrière, et pas avoir des oui qui en fait veulent dire non, parce que de guerre là sont dit oui et voilà quoi. Donc ça c'est quelque chose d'important. Après, l'autre valeur de la coopérative, c'est la propriété collective. C'est donc de se dire, c'est mon logement dans le sens où je vais l'habiter, mais c'est ma maison commune aussi. C'est-à-dire que cette maison commune, quand je paye tous les mois mon loyer, je paye aussi l'usage de cette maison commune. Donc même si on n'est pas obligé, effectivement, d'y passer tous les jours ou quoi que ce soit, il faut quand même avoir dans l'esprit... l'envie de la faire vivre, cette maison commune. Donc nous, on a décidé d'avoir une maison commune ouverte sur l'extérieur. Après, chaque projet, on fait à sa philosophie. Nous, on l'a déjà ouvert pour faire des projections de films, des concerts, etc. Donc, c'est ouvert sur le quartier avec espoir de dynamiser un peu notre quartier. C'est dur, mais on peut y arriver. Et aussi au-delà, voilà. C'est-à-dire de dire... quand on a fait les projections de films, effectivement, il y a des gens qui venaient de Toulouse, qui n'étaient pas forcément nos voisins les plus proches, mais qui sont venus. Et de se dire que cette maison commune aussi, elle doit vivre pour ses habitants, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais prendre Michel, que Catherine connaît, Michel est prof de yoga, et donc elle va proposer des cours de yoga dans la maison commune pour ses voisins. Voilà, donc pareil, c'est pas une obligation, faut pas se dire, ouais, mais c'est la voisine, je suis obligée d'y aller. Voilà, faut vraiment être dans un partage et dans la sincérité de se dire, l'autre va pas s'offusquer s'il n'y a pas tous ses voisins au cours de yoga. Et voilà, donc que chacun en fait apporte sa spécificité pour faire vivre la maison de choses les plus diverses possibles. Quoi. Parce que cette maison, elle nous appartient tous. Donc ça veut dire que cette maison, on doit aussi tous l'entretenir. Etc. Hein, c'est dans cette maison qu'il y a les chambres d'amis, par exemple. On a décidé, nous, de faire aussi des chambres d'hôtes, différenciées des chambres d'amis, pour justement inviter les gens qui auraient des réticences, qui diraient « Oui, mais enfin, ça, c'est votre secte, c'est votre communauté », de leur dire « Viens passer un week-end, voilà, tu verras si, effectivement, l'habitat participatif, c'est... d'être toujours tous ensemble et avoir qu'une tête et penser tous la même chose, voilà, de faire un peu de l'immersion et puis toujours pour pouvoir semer des graines de coopérative que les gens après aient envie de se dire effectivement c'est ce qu'il faut faire, il faut partager, il faut mutualiser. Parce que là en fait on mutualise des espaces dans la maison commune, mais on mutualise aussi des biens. C'est-à-dire que nous, là pour l'instant on est que en colocation, mais du coup on a testé des choses, donc on a testé les voitures partagées, ça marche assez bien. Le covoiturage pour emmener les enfants aux activités, ça marche très très bien aussi. Pour aller chercher les courses, on fait nos achats groupés et il n'y a qu'une voiture qui part chercher les achats de tout le monde. Voilà, donc ça permet aussi ça de faire du lien. C'est-à-dire que quand votre voisin arrive avec votre panier de la MAP, bah, c'est l'occasion aussi d'échanger et puis voilà, de recréer du lien entre voisins. Et c'est aussi. Donc mutualiser des biens, des services, qu'est-ce que je veux dire, tac. Oui, aussi, quand je revenais tout à l'heure, sur l'aspect financier, c'est-à-dire que quand on paye notre loyer, donc comme tout à chacun, on a un loyer qui est à perte, parce que ça paye les charges, etc., ça rembourse le crédit que la coopérative a souscrit pour faire les constructions, mais il y a aussi une partie redevance. Et ça, en fait, c'est une... Alors, en coopérative d'habitants, on ne parle pas de loyer, en fait, on parle que de la redevance qui comprend le loyer perdu et les parts sociales, en fait, parce que tous les mois, en payant notre loyer, on rachète encore des parts sociales de la coopérative. Et ça, le jour où on s'en va, c'est quelque chose qu'on récupère. C'est-à-dire que si je suis rentré dans la coopérative avec un apport et tous les mois, j'ai payé ma redevance, et bien, en fait, quand je pars, je récupère mon apport et je récupère mes parts sociales. Donc on va pas s'enrichir parce que il n'y a pas de spéculation, mais les parts sociales elles sont revues en fait sur l'index de révision des loyers, donc c'est pas mirobolant mais c'est pour permettre de se reloger après justement. Donc sur ces parts sociales j'ai perdu le fil là,
tac.
Oui, c'est ça. Donc, on ne fera pas de spéculation en récupérant. Si, en fait, on ne part pas, mais on décède, parce que même en coopérative d'habitants, on meurt à la fin. En fait, là, les héritiers ne se retrouvent pas avec un bien immobilier. Moi, je veux vendre, non, moi, je veux pas, mais si, nana. Ils se retrouvent avec des parts sociales qui ne leur donnent pas le droit d'habiter le logement, en fait. Donc, s'ils veulent habiter le logement, eh ben, ils feront comme tout à chacun, c'est-à-dire qu'il y aura une période de cooptation où on se met d'accord sur des... Bah, voilà, est-ce que les personnes sont d'accord avec la charte, est-ce que, effectivement, voilà, est-ce que nous, on leur plaît, est-ce qu'eux nous plaisent. Voilà, la cooptation, elle se fait dans les deux sens. Et donc, ça ne donne pas un droit de préemption sur le logement. Et donc, c'est plus simple aussi, en cas d'héritage, d'avoir juste des parts sociales à revendre que d'avoir un bien. Voilà, parce qu'après, on sait tous que dans un bien, on met de l'affect et... de leur vendre plus cher que ce que ça vaut, et ça traîne, et ça se dévalue, et voilà. Là, c'est beaucoup plus simple. Garantie. Je conseille à tout le monde de faire ça pour l'héritage, c'est très bien. Les enfants sont prévenus, que départ. Hein.
D'accord.
Ouais, non, mais.
Il est pas d'accord.
Ah, il est vénal, c'est donc, nous, actuellement, on a déjà mis en commun, par exemple, les machines à laver. Voilà, donc, c'est un truc qui roule. On n'est encore jamais arrivé devant les machines à laver. C'est mince, tout est plein. Voilà, c'est des choses simples, en fait, qui vont permettre d'économiser d'emblée, déjà. Et puis aussi, du coup, comme on mutualise, plutôt que d'avoir une machine à laver qui bouffe plein d'électricité et plein d'eau, on peut se permettre d'acheter des choses de meilleure qualité, voilà, qui sont plus économes, et du coup, d'avoir sur le long terme un projet qui, au niveau écologique, tient la route. Parce que ça, je vous ai parlé de la subvention de l'ADEME, c'est quelque chose qui va être contrôlé. Voilà, c'est pas juste on vous donne un chèque et ça veut dire que pendant 5 ans, nos consommations d'électricité, d'eau vont être contrôlées foyer par foyer pour qu'on tienne les promesses qu'on a faites dans le cahier des charges avec les constructeurs, etc. Donc nous, pour monter cette coopérative d'habitants, c'est pas tout rose. Par moment, on se prend un peu des murs. Par exemple, on se dit, voilà, on va faire un truc super écologique, phytoépuration, et après on se dit, ah oui, non, mais la phytoépuration, ça se fait sur du terrain constructible. Obligé. Oui, ah mince, on n'a pas assez de terrain constructible pour planter tous nos bassins. Bon, alors, on coupe la poire en deux, c'est-à-dire qu'on a fait un bout de phytoépuration, qu'on est quand même raccordé au réseau, mais qu'on va rejeter de l'eau propre. Bon, voilà, des choses comme ça. Parce que après vous avez aussi des murs, il y a le budget, hein. Nous par exemple on a fait notre budget, puis là il y a la loi de finances qui est passée, qui passe la TVA de 5,5 à 10%. Voilà, ça nous fait 63 000 euros je crois, de plus, enfin, du coup de moins. Voilà, des petites choses comme ça qui font que par moment on se dit on n'y arrivera jamais, c'est pas la peine. Et il y a d'autres choses qui font qu'on se dit que non, en fait, ça vaut le coup de continuer. Quand on voit déjà qu'il y a d'autres coopératives qui tournent, qui emménagent, on se dit on n'est pas tout seul, et c'est que si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Et c'est aussi des petits signaux, mais il y a beaucoup de municipalités maintenant qui voient le bon côté de l'habitat participatif et qui veulent juste réserver des terrains de foncier à l'habitat participatif, et s'ouvrir aussi à l'habitat participatif sous forme de coopératives d'habitants, justement pour garantir cette mixité sociale et faire que ces logements qui ont été faits sous telle municipalité, par exemple, ne deviennent pas 20 ans après des choses qui se revendent à prix d'or et qui font qu'on va encore envoyer les populations les plus modestes à l'extérieur des villes et encore plus en banlieue, etc. Voilà, donc c'est des choses qui sont en train de se faire, qui nous remettent du baume au cœur. Et donc nous on va avoir là 11 logements qui vont se construire, là on sait, ça va démarrer début avril, là, ça fait un moment qu'on se connaît, on a déjà dû en parler, de se dire quand est-ce qu'on va construire. Ah, mais là, au printemps, on ne savait pas quel printemps c'était, en fait. Mais voilà, c'est printemps 2018. Et on est bien contents. Et le principe après d'avoir nos logements, ça va être de continuer à vouloir faire vivre la coopérative, mais aussi continuer à accueillir des gens pour leur montrer comment ça marche, pour aider à montrer aussi des projets. Parce que tous les 13 du mois, nous, on fait des portes ouvertes dans la maison commune. On fait une auberge espagnole pour expliquer le principe de la coopérative d'habitants. Et là, on voit depuis 6-7 mois qu'on a de plus en plus de groupes qui viennent pour justement dire qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, comment il faut faire pour pouvoir aussi monter des projets. Et là, on se dit qu'on tient le bon bout, parce que c'est vraiment une façon de rendre l'habitat sobre, sain, accessible à des gens qui ne pourraient pas y prétendre autrement. Quoi. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je pose.
Je ne sais pas si ça
va. Ça non plus, voilà.
10, allez, ça fait bien 42 minutes.
Ah, Moi, je vous disais, je vais être obligée de chanter pour meubler, tout ça, mais non, ça. Hein. Heureusement pour vous. Non, non, heureusement pour vous.
On peut arrêter à voir. Hein.
Voilà. Donc, après, s'il y a des points plus particuliers que vous voulez aborder.
Combien de familles là, Beaumont, vous êtes
Alors, au final, on sera 11 familles.
Combien
11, au final. 11. Enfin, 11 foyers, on dit, parce qu'on n'a pas forcément des familles. Voilà. Et actuellement, on est 3 foyers cooptés.
Oui.
Voilà.
Mais en commune, là.
Alors, là, nous avons une fuite à Beaumont. C'est-à-dire que 3 foyers nous ont quittés. Début février, en disant c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, parce que on venait de se prendre cette TVA machin. D'autres choses, par exemple, nous pour avoir notre prêt, on nous a dit il nous faut une garantie des collectivités territoriales. Donc Beaumont c'est 1500 habitants, nous on a un projet à 2 400 000, ils n'allaient pas nous suivre. Donc on a tapé à la porte du département qui a dit ok, nous on veut bien se porter garant de votre projet, mais il faut que vous travailliez avec une société qu'on connaît, donc travailler avec les chalets. Donc du coup on a dû signer avec le chalet. Les chalets nous ont dit oui, pas de souci. Et en travaillant, alors, on délègue notre maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que on garde notre architecte, on garde notre conception écologique, etc., les matériaux, on choisit des entreprises, ça, on garde la main là-dessus. Seulement, on devient aussi tributaire des obligations des bailleurs, c'est-à-dire que nous, on avait prévu qu'il y ait 2 logements qui soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Là, du coup, avec ce partenariat, on est obligé de faire 9 logements, c'est-à-dire tous les logements de plein pied. Et donc, c'est un coût qu'on avait bien budgétisé pour 2 logements, pour 9. Après on a dit ça reste dans la philosophie de ce qu'on veut faire, donc on le fait, mais des petites claques comme ça qui ont fait que 3 foyers nous ont dit on s'arrête là. On leur a dit mais non, mais là c'est bon, voilà. Faut pas, le plus dur est derrière nous. Ceux qui vont rejoindre la coopérative d'habitants là maintenant, c'est ce qu'on disait avec Stéphanie en arrivant, toutes les commissions de travail qu'on a là, qui sont des commissions pas rigolotes, genre réglementation, subvention, budget, puisque les constructions vont commencer, donc elles n'ont plus lieu d'être, on a le prêt, donc il va falloir mettre en place la commission festive, la commission jardinage, et là vraiment c'est le moment ou jamais de rejoindre une coopérative d'habitants, là c'est là un peu, c'est pas le moment de la lâcher quoi. Donc pour l'instant nous on est 3 foyers engagés, il y en a 4 foyers qui nous rejoignent, c'est-à-dire qui travaillent avec nous justement dans ces commissions pas rigolotes, et puis on continue comme ça, on ne se fait pas de soucis dans le sens où tous les autres projets qu'on suit, il n'y en a aucun qui est resté avec des logements vides. Il y a plutôt des listes d'attente en général pour les habitats participatifs en coopérative d'habitants. À Bricop, à la cartoucherie, ils étaient pleins et au dernier moment quelqu'un les a lâchés. Ils ont pioché sur leur liste d'attente. Ça fait plus de 45 minutes ou quoi. donc pour l'instant.
Est-ce que vous avez des seniors qui sont allés vers cette sport?
Oui, beaucoup.
Oui.
Oui. Ah, beaucoup parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que ça maintient en vie, hein, parce que c'est vrai que là pour monter le projet déjà c'est du travail, donc. Il n'y a pas besoin d'aller aux ateliers Scrum, je suis sûr que ça travaille bien. Et puis aussi, c'est une façon de... On a un voisinage qui est bienveillant, sans être intrusif, mais de se dire, c'est bizarre, les volets ne sont pas ouverts, je vais jeter un œil. Et aussi, à l'inverse, nous on le voyait quand notre retraité était en colocation avec nous, c'est que ses petits-enfants... avait plus d'entrain à aller chez papy là où il y a d'autres enfants qui ont le même âge et tout ça, que quand il était dans sa maison dans les Pyrénées où on allait chez papy. Après c'est vrai que les enfants entre eux là des fois heureusement qu'il y a des repas de temps en temps, parce que sinon on les verrait jamais quoi, donc ça y est, une bonne alchimie.
Vous avez dit, au niveau des coûts, vous avez mentionné la somme de 2 millions, c'est ça?
Oui, au total 2 millions 400.
2 millions 400, et il y a donc 11 unités de vie?
Oui.
Donc ça fait du 200 000 et les poussières par...
En fait, oui, on avait un, on a un foncier de départ qui est à 680 000. Voilà. Et après, une construction...
Et alors le système, c'est donc... le loyer dépend de la surface de l'habitation.
Oui.
C'est ça.
Voilà. Donc... Alors nous, on a fait un... Alors après, chaque coopérative a son, son système. Hein. Nous, on a pris donc au mètre carré. En sachant quand même que, par exemple, le loyer ne peut pas excéder 33% des revenus de la personne.
D'accord.
Sauf si la personne le demande. Nous, on avait le cas d'un, jeune couple qui disait, nous, on peut aller au-delà des 33%, donc, voilà. Mais sinon, on reste à 33%. Après, c'est des logements qui sont, on peut percevoir les APL, enfin, l'allocation logement, voilà, ça reste...
Et on peut avoir une idée du prix pour vous parler d'un T2 de 55 mètres carrés.
Ouais, alors un T2 par exemple de 55 mètres carrés, il y a un apport de 35 000 euros.
D'accord.
Et après, on est sur un loyer qui. Alors, nous, on est en train de fixer la loyer et redevance. On ne veut pas excéder 10 euros du mètre carré, tout compris. C'est-à-dire la
donc
partie que vous. Voilà. Donc vous avez 6,50 euros de loyer. Et le reste, c'est des parts sociales que vous récupérez quand vous partez.
Redire la proportion entre les deux.
Donc sur 10 euros du mètre carré, il y a 6,50 de loyer et donc
3,50
d'épargne.
Et du coup, à quoi il sert ce loyer ?
Eh bien, à rembourser la banque. À rembourser la banque, à payer les charges parce qu'on a des frais, par exemple le comptable.
La banque, c'est remboursé, enfin, ça correspond à la valeur des parts sociales ?
Non, les parts sociales, c'est ce qu'on garde nous.
Donc,
voilà. Et donc en fait le loyer il a perte, c'est-à-dire donc il sert à payer des charges, il sert à payer rembourser le crédit, ce qui fait que par exemple on a un prêt sur 30 ans, donc dans 30 ans le crédit sera remboursé, donc les loyers devraient baisser puisque le prix sera remboursé. Donc là, il y a une petite astuce qui s'appelle le fisc, qui interdit qu'on baisse des loyers en deçà d'un prix. Voilà, on ne peut pas faire dire, ben, nous on a remboursé notre prêt, donc on fait un prix en deçà du marché. Donc là, la question se pose au niveau de la Fédération nationale des coopératives habitantes, c'est de dire de garder un loyer qui va diminuer forcément, mais qui va abonder un fonds mutuel en fait. Pour les créations de coopératives, c'est-à-dire que nous, là, on est en train de monter des usines à gaz pour avoir des prêts locatifs, sociaux, voilà, pour pouvoir monter des coopératives. Là, c'est de dire que c'est les coopératives entre elles qui mutualisent des fonds et qui, quand une coopérative a besoin d'un prêt pour faire construire, et ben, en fait, de se prêter entre nous. Mais de toute façon, ça a un loyer qui, au bout de 30 ans, diminuerait parce que le crédit serait remboursé.
Le « on » dont vous parlez,
oui.
On, à l'origine, c'était... qui en termes de nombre de personnes, et comment vous faites justement pour passer de 3 à...
Alors, on, au départ, c'était, on était 4 foyers, et nous nous sommes rencontrés sur un autre projet d'habitat participatif, donc à l'île Jourdain. À titre personnel, c'est un projet que j'ai rejoint en 2011. Stéphanie en 2013. Raymond en 2013 aussi, je crois. Et Isabelle l'avait rejoint en 2012, je crois. Début 2012. Donc en fait, on se connaissait que sur des temps de réunion. Parce qu'on ne faisait pas ces temps de vivre ensemble. Hein. Mais quand il a fallu choisir l'architecte, des choses comme ça, on s'est aperçu qu'on n'était pas d'accord avec le groupe. Et que par contre, nous quatre, on avait un peu la même vision des choses sur la nécessité, par exemple, de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, sur le choix de l'architecte. Et donc on s'est dit, bon, il y a deux solutions, soit on laisse tomber l'habitat participatif en disant, soit on essaye de monter notre projet. Et donc du coup, on est parti en se disant, on va essayer de monter notre projet, en sachant d'emblée que nous, on veut partir en coopérative d'habitants, qu'on veut un accompagnateur professionnel extérieur. Donc on s'est rencontrés comme ça. Mais en fait, on n'était jamais partis en vacances ensemble, ni quoi que ce soit. Et on s'est mis en coloc.
D'accord.
Donc après, pour trouver les autres.
Et pour trouver des autres, et ben alors donc tous les 13 du mois, on ouvre la maison. Donc ça, c'est on est répertorié sur des sites comme Colibri, des choses comme ça. Il y a du bouche à oreille. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant je viens de la part de machin, et nous on ne connaît pas machin. Et en fait, parce que il y en a qui ont vu un prospectus chez leur, dans la salle d'attente chez le médecin. Enfin voilà, c'est.
Et c'est là que l'unanimité fonctionne pour permettre à quelqu'un d'entrer.
Alors là, par exemple, pour coopter quelqu'un, nous on a deux critères qui sont assez simples, c'est l'accord avec la charte et l'implication dans le projet. C'est-à-dire si c'est effectivement, il faut que la personne vienne aux réunions, s'inscrive dans des commissions de travail pour voilà, travailler tous ensemble et participe à un week-end de vivre ensemble. Et voilà. Et on dit 6 mois minimum, et le candidat entre guillemets propose sa cooptation. On n'a jamais eu à refuser une cooptation. Il y a des gens qui sont restés un an et demi, qui n'ont jamais demandé leur cooptation en fait, qui continuent à travailler avec nous, à participer, etc., mais qui ne se sentaient pas de demander leur cooptation. Le cas auquel je pense, c'est un couple qui s'est séparé. Donc après, aucun des deux ne se voyait vivre dans le logement sans l'autre. Donc, mais ça, par exemple, pendant un an et demi, on a travaillé ensemble, etc. Il n'y a pas une obligation de dire au bout de 6 mois, demande ta cooptation. Parce qu'on se choisit mutuellement, en fait. Hein. Nous aussi, on peut ne pas plaire. Hein.
Ça, c'est sûr. Des règles précises également pour les entretiens des espaces communs. Ouais. Pour le tour de travaux, vous avez une somme également pour prévoir l'entretien de tous les bâtiments,
oui, alors ça,
la rénovation.
C'est, ouais, ça c'est pris sur le loyer. Il y a une partie de provision pour les impayés, les vacances et les gros travaux. Voilà. Ça fait qu'il n'y aura pas un appel de fonds pour dire il faut refaire les toitures. Ça, c'est pris. Mmh. Et pour ce qui est des règlements intérieurs, ça, on ne l'a pas fait encore.
D'accord, ça va.
Ouais, on se dit qu'il faut regarder aussi un peu pour quand le groupe sera au complet. Ah. On aura plus d'idées. Mais oui, de toute façon, il faut
aussi baliser tout.
Ouais. Ouais, oui, voilà, c'est toujours penser
au pire,
et pour faire qu'on n'ait jamais à s'en servir et que ça se passe pour nous. C'est ce qu'on faisait un peu au début qu'on était en colocation. Hein. On faisait une réunion tous les lundis pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Blablabla. Puis après, il y a eu un lundi où on a sauté la réunion. Puis quand est-ce qu'on a fait une réunion de coloc en fait? Je sais pas, c'était le mois dernier. Et puis après, voilà, après on sait comment on fonctionne, les choses se font assez naturellement, sans qu'on ait besoin de se mettre un planning ou quoi que ce soit. Il n'y a que pour les poules, on a mis un planning pour que les enfants aillent aux poules, parce que quand il fait froid et tout, comme ce matin par exemple, il n'y avait personne pour les poules. Hein. Mais voilà, non, sinon ça se
passe bien. C'est sur l'aspect démocratie, tout à l'heure tu disais... on fonctionne au consensus, ouais. Et avant tu disais chaque personne a le même poids, et du coup il y a du coup une idée de entre le moment où on est tout d'accord, mmh. où on constate qu'on n'est pas tout d'accord, et qu'on bascule sur un système de vote,
ouais.
ou pas, et comment ça se passe?
Alors on peut basculer sur un système de vote, nous ça s'est encore jamais produit.
C'est quoi le critère qui fait que vous basculez?
Et alors en fait c'est parce qu'il y a les assemblées des habitants, où là en ce moment quand on construit le projet, c'est-à-dire qu'on n'y habite pas encore, etc., il faut quand même qu'on fasse des choix. Comme par exemple, je vais prendre un truc où il n'y a pas eu consensus. Est-ce qu'on prend des moutons pour la prairie ou est-ce qu'on fait des tours, on achète une tondeuse et que chacun tombe? Bon, là, on se dit des doigts dans le nez, des moutons. Eh ben non. Il n'y a pas eu consensus. Donc il y a eu d'autres propositions avec, pour la réunion suivante, le tarif, une tondeuse ça coûte tant, un mouton ça coûte. Bon, ça on avait dit, bah, ok, si on n'arrive pas à avoir un consensus, il faudrait qu'on arrive à un vote, du coup de dire, bah voilà, chacun ayant les données, qui est pour le mouton, qui est pour la tondeuse. Bon, finalement on a eu d'autres sujets un peu plus urgents à traiter, donc du coup c'est toujours en suspens. Et l'herbe pousse complètement, et le voisin râle.
Donc du coup, juste pour bien comprendre, c'est au moment où vous constatez que vous n'arrivez pas au consensus, que vous prenez
voilà.
la décision à et, chaque fois, ouais. est-ce que là, et comment vous prenez cette décision?
Alors, en fait, ouais, un habitant, un foyer, une voix, un habitant, une voix, c'est dans les assemblées générales, notamment, de la société, en fait. Donc ça, on n'en fait pas les assemblées générales. Il y en a une par an pour faire le bilan moral et le bilan financier. Hein. Là, mais sinon, toutes les décisions voilà, du quotidien, entre guillemets, ça se fait sans vote.
Et il y a réunion entre habitants pour ouais.
Alors nous, pour l'instant, comme on est en phase de construction de projet, on se réunit tous les 15 jours, soit le samedi, soit le dimanche. Et c'est une... Donc c'est du 9h30, midi et demi, 14h30, 17h. Ouais, c'est des... ouais voilà. Ça demande beaucoup de temps. En même temps, on a un projet qui avance vite. Parce que justement, on s'en donne les moyens. Mais là, comme on arrive aux constructions, on a changé un peu de mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on continue à se réunir sur une journée. Mais l'après-midi, on fait plus du vivre ensemble. On fait des thématiques. Voilà, plus par exemple, on va se mettre à aller jardiner tous ensemble. Là, c'est-à-dire qu'on aborde d'autres notions sans être assis autour de la table à faire du cérébral.
Voilà. Et cette personne qui vous accompagne, extérieure, c'est quel profil et c'est quel groupe ?
Alors, le profil, c'est un profil super atypique. Au départ, c'est un plombier. Voilà, qui fait partie d'Arezzo, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Aramonville à la messe, là. Voilà, qui a beaucoup voyagé, s'est auto-formé en fait en communication non violente, en sociocratie, en théâtre forum, etc. C'est Bruno Toubonin, si certains connaissent. Et donc lui, il a visité des habitats participatifs, notamment beaucoup au Québec et au Danemark et tout ça. Et il a essayé de monter le sien. Et ça n'a pas marché. Et donc, il a tiré les enseignements de pourquoi ça n'avait pas marché. Et au départ, il n'était pas trop enthousiaste. Enfin, ouais, il ne voulait pas accompagner de groupe, etc. On l'a convaincu. Et il a dit, bon, ok, mais vous serez le seul groupe que je vais accompagner. Parce que, voilà. Et donc, il nous a effectivement accompagnés pendant un an. La formelle, les techniques, etc. Puis un jour, il nous a dit, bah voilà, maintenant, les outils, vous les avez. Donc, à vous de les utiliser. En cas de coup dur, vous me rappelez, je suis là. Mais voilà, il a même mis l'habitat participatif entre parenthèses. Là, il a remonté une association. Il fait du graphe en terre crue. Voilà. Donc, il fait de la réinsertion. Voilà. Donc, c'était un profil très atypique.
Et c'était bénévole ou...
Ah non, c'était pas bénévole, mais c'était pas cher, voilà.
D'accord.
Nous, ça devait nous revenir à 500 € par mois, à peu près. Sachant que c'est quelque chose qui est... Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de coûts dans l'habitat participatif, mais il y a aussi des subventions à aller chercher à droite à gauche. Et notamment pour tout ce qui est de l'accompagnement. Nous, on avait cet accompagnement humain avec Bruno Touvenin et un accompagnement juridique et financier avec Abicop. Abicop, c'est une association qui est à Lyon. C'est eux qui, avec Emmaüs, a travaillé sur tout le lobbying qu'il y a eu à faire pour la loi Allure, en fait, pour mettre les coopératives d'habitants dans la loi Allure. Donc, ils ont accompagné la première coopérative d'habitants qui est à Villeurbanne, le village vertical. C'est eux qui ont aidé à monter les statuts, etc. Donc, pareil, ils nous ont accompagnés. Donc, ça, c'est un coût, c'est un forfait. Ça coûte 25 000 € pour monter le dossier, machin, machin. Mais, 25 000 €, mais il y a une subvention qui rembourse. Mais la Fondation de France donne une subvention qu'elle appelle la subvention démarche participative, qui, en fait, rembourse cette facture-là.
D'accord.
Ouais. Mais nous, après, comme on l'a payé, on sait ce que c'est, et qu'on est en coopérative d'habitants, eh bien, les gens qui nous demandent, voilà, on s'arrange. Et sinon, de toute façon, Abicop ne le fait plus sur la région, en plus. Voilà, ils se sont recentrés sur Lyon. Et maintenant, pour l'Occitanie, c'est APFAB qui a repris. Donc APFAB, c'est une SKIC. Et ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous payez des ateliers. Donc, par exemple, vous allez payer un samedi d'atelier qui va être le montage juridique de votre coopérative. Des choses comme ça.
On est quelques-uns à monter une coopérative SIC, justement, en Montesquieu-Est, et on est adhérent au réseau des COP, et on est justement d'avoir accès à cette payant, mais non une partie.
Voilà, une partie. Ouais.
Une question saugrenue.
Oui.
À propos de votre accompagnateur, oui. Vous avez dit qu'il s'était formé en communication non violente.
Oui.
Est-ce qu'elle a communication violente?
Pas assez.
Pas assez. Non, parce que vous m'avez intrigué là.
Ah, c'est intrigué. Ouais, alors, moi je ne suis pas la spécialiste de la communication non violente.
Non, ça veut dire qu'il y a une communication violente aussi, ce qui me semble un petit peu.
Voilà, en fait, c'est la communication non violente, c'est la façon de ne pas fuir le conflit, de se dire que le conflit est constructif. Et donc, moi, de vivre le conflit pour en sortir quelque chose et qu'il fasse avancer le conflit. Voilà. C'est pas. On se dit rien parce qu'on a.
Flexibilité constructive.
Voilà. On a le droit d'avoir des opinions divergentes, mais.
Très bien. Même de les exprimer. De les. Mais pas si
vous. Allez, passion contenue.
Sans passage. C'est un des éléments qui, moi, m'avait beaucoup impressionné la première fois où je suis allée dans un 13.
Un 13, venez au 13.
À la coopérative donc, d'habitants, c'était de voir à quel point il pouvait y avoir une communication, même sur des choses où ils n'étaient pas d'accord, mais ça se sentait. C'était vraiment assez extraordinaire de sentir qu'on pouvait exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer, tout en faisant attention de ne pas monopoliser la parole, tout en faisant attention de ne pas empêcher l'autre de s'exprimer non plus. Un gros respect, en plus, moi j'avais senti un grand respect à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui parle, tout le monde écoute, il n'y en a pas 40 qui sont en train de discuter d'autres choses en même temps, hein, parce que ça, on le rencontre au quotidien, là, c'était vraiment pas ça. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné de voir à quel point, justement, l'aide que vous avez apportée, cette personne qui était venue et qui vous avait suivi pendant un an, pouvait être... C'est assez extraordinaire.
Bah, après, c'est quelque chose qui. C'est vrai qu'on, par exemple, à chaque réunion, on a affiché pourquoi je suis là, pour faire un habitat participatif. Je ne parle pas pour ne rien dire. De se le rappeler, d'abord parce qu'on accueille des nouvelles personnes. Donc, voilà, et aussi parce que se réunir juste pour se réunir.
Très intéressant.
Ouais, ah ouais. Ouais, quand il va découvrir c'est des velcro, vous allez voir.
Ah ouais,
il va pas être là. Là, donc aujourd'hui, trois familles cooptées.
Ouais.
Et combien de ces familles qui sont susceptibles de.
Donc, il y a quatre foyers qui nous suivent. Ouais.
Pour l'instant, vous seriez pratiquement
7. On est 7 sur 11 logements. Après, c'est ce qu'on dit toujours et depuis le début, et on avait raison de le dire, c'est de dire que les gens qui sont là à l'instant T, rien ne dit qu'ils seront là quand on entrera dans les logements. Par exemple, là, quand même, dans les trois foyers qui sont partis, il y en a deux qui faisaient partie des fondateurs, entre guillemets. Donc là, c'était pour des histoires de démoralisation, mais... Il y a le couple qui s'est séparé, là, voilà, ça on n'est pas à l'abri, des gens qui sont mutés des fois. Donc on sait que, alors même si c'est pas évident de se projeter quelque part en se disant ça se trouve j'aurai jamais de place, c'est pour ça qu'on essaie de faire des choses sympas quand même pour que vous ne le regardiez pas, de se dire quand même, je garde un. Il y a aussi des gens qui de loin nous rappellent tous les 4 mois à peu près. Pour savoir si il y a toujours les T2 disponibles, quand est-ce que commence le logement, voilà, qui garde un peu le pied dans la porte. Et nous, ça nous fait plaisir d'avoir des nouvelles tous les 4 mois.
Et juste une question par rapport au remboursement du prêt. Donc, j'ai bien compris le système des 6,50 euros sur 10 euros au carré. Mais pour l'instant, vous n'êtes que 3. À payer un loyer en colocation, vous êtes loin du compte pour pouvoir rembourser. Donc vous avez décalé le démarrage du remboursement du prêt.
D'ailleurs, je vais faire la quête parmi les. En fait, le prêt qu'on a, c'est pas un crédit relais, c'est un prêt d'attente. C'est-à-dire qu'on pour acheter le foncier, nous on avait déjà de l'apport, donc on a eu un prêt. Qu'on rembourse en payant en fait notre. On rembourse les intérêts là en payant notre loyer de colocation. Et notre prêt pour la construction, on va le rembourser que quand on sera dans les logements.
D'accord.
Et après, c'est un prêt... donc sur les 11 logements, il y en a 9 qui sont des logements sous conditions de ressources, qu'on finance avec un prêt locatif social. Et donc ça, c'est un prêt qui, jusqu'à la dernière loi de finances, donnait une TVA à 5,5, bon maintenant 10, mais qui, par exemple, permet une exonération de la taxe foncière pendant 25 ans. Donc, il y a deux logements qui sont réservés, un T2 et un T4, pour les personnes qui sont au-dessus de ces plafonds. Sachant que c'est des plafonds, je crois que 80% des habitants de Haute-Garonne sont dessous. Et l'exemple qu'on donne le plus régulièrement, c'est que un couple d'enseignants avec deux enfants, il est sous ce plafond. Ouais. Donc, c'est un plafond qui est assez haut.
Quand même. Donc, les enseignants ne sont pas bien payés. Mais
aussi. Donc ça c'est la prochaine,
ça, c'est
une autre pub en vol.
C'est une autre conférence. Voilà.
Et comme vous savez, on a un an et demi, deux ans pour les construire, c'est 11 unités.
Alors l'archi nous a dit entre 12 et 14 mois.
Donc, vous ajoutez 20% de plus.
Sachant quand même que nous c'est des constructions qui vont vite parce que
c'est du bois,
c'est de la structure bois. Et puis c'est groupé, donc c'est l'équivalent de trois grosses maisons en fait.
Ah d'accord.
Notamment, voilà, on est par plot, il y a un plot où il y a un T2, un T3, un autre plot où c'est 3 T2. C'est des choses qui devraient aller assez vite.
Et vous avez une emprise de combien au sol?
Alors au sol, 699 mètres carrés.
D'accord. Autour de la maison commune.
Autour de la maison commune, on vous a ramené des plans. Parce qu'en fait, le terrain fait un hectare, un peu plus d'un hectare, mais il n'y a qu'une partie qui est constructible. Et donc nous, ça nous allait très bien, en fait, de se grouper là. Le reste du terrain, c'est de la pente.
Et est-ce que, du coup, les travaux, vous faites tout faire? Ou est-ce que vous avez participé à certains?
Alors, on va participer à certains trucs, notamment, c'était pour faire baisser les coûts. Dans les logements, il va falloir apporter de l'inertie. Donc on va faire des murs en terre, parce que ça, c'est pas compliqué à faire, mais c'est long. Donc, c'est une mise en œuvre qui est longue, qui nous aurait coûté cher. Donc ça, on va se le faire en chantier participatif. Les enduits terre et puis certains murs de refond en terre, on va les faire. Des choses comme ça. Il y aura aussi les parpaings de soubassement aussi. On se le garde. On appellera Bruno, on fera du grafter dessus.
Et du coup, en fait, dans l'idée, les gens qui vont vivre sur ce lieu, ouais, ils vont tous avoir une sorte d'appartement un peu autonome.
Ouais. C'est ça, hein? Complètement.
Il n'y a pas de gens qui vont rester à vivre en coloc.
Non. Pour la coloc, on a un bail, et dès qu'on a nos logements, on va dans nos logements, et du coup, ça devient vraiment la maison commune.
Elle est immense en fait.
Ouais.
Du coup,
400 mètres carrés.
Elle est très très grande et comme le monsieur l'a construite au fur et à mesure, c'est vrai qu'elle est assez biscornue. Il y a des marches. Par exemple, il y a une très très grande salle de réception, comme ça. Mais les chambres sont toutes petites, par exemple. Donc, ce qui fait aussi qu'il était content de nous vendre à nous parce que des familles, 6 chambres d'accord, mais de toutes petites chambres avec des grandes salles de. Une grande salle de réception, ça fait bizarre. Quoi. C'était à coup de véranda, qu'il a fait. Finalement, c'était une véranda, puis finalement, on s'est dit, je vais mettre des murs, enfin voilà. Quoi. C'est très bien pour notre projet, mais pour une famille.
Pardon. Et sinon, une fois que les logements sont construits, il restera combien de terrain si ça veut le potager? J'imagine que vous voulez.
Alors, il y a du potager. Donc là, en fait, notre terrain est très pentu. Donc le potager est dans la pente. Et bien sûr, les meilleures terres, c'est là où on va construire. Donc on va en profiter pour remonter la terre sur la pente et on va faire des terrasses. Et il y a de quoi faire. Parce que sur un hectare, il y a une partie qui est en bois. Donc c'est un bois de chêne. Et une partie qui est en prairie. Et sur la partie qui est en prairie, nous on avait déjà fait un petit jardin partagé là, pour occuper le beau-père de Stéphanie. Il y a de quoi faire. On montrera les plans. Et puis surtout, vous venez un 13.
Eh ben oui, c'est ça.
Peut-être plutôt un 13 où il ne fait pas encore nuit à 19h. Alors en fait, quand on a demandé au département de nous garantir, ils nous ont dit que ce serait bien que vous travailliez avec les chalets. Voilà. Ah bah, moi la première, j'avais de gros a priori. Voilà. Et en fait, comme on avait déjà notre permis de construire, comme on avait déjà notre architecte, comme on avait déjà l'accord de l'ADEME, c'est plutôt les chalets du coup qui nous a un peu la tête de devoir nous accompagner. Parce que voilà, quoi, le projet était déjà ficelé, donc. Voilà, eux ils garantissent qu'effectivement le chantier va aller jusqu'au bout, ce que nous tout seuls on ne pouvait pas garantir. Bah là, par exemple, ils se connaissent un petit peu plus que nous en construction. Donc voilà. Donc du coup, là-dessus, ils nous ont un peu aiguillés. Après, il y a certaines entreprises qui connaissent, que nous, quand on aurait eu les devis, eux nous ont dit, non, là, cela, c'est pas la peine. Oui. Oui, mais enfin, l'architecte, il connaît pas toutes les entreprises. Il nous a aidés. Il y a certaines entreprises auxquelles on tenait, on est allé les visiter, on est allé voir avec lui des chantiers, etc. Voilà, enfin surtout, je sais pas si vous avez lu là ce qui s'est passé pour la cartoucherie, mais voilà quoi, des entreprises qui s'ouvrent, qui prennent le marché, puis qui finalement ferment avant, qui voilà. On peut les éviter, ça arrange.
Puis là, c'est pas une maison, c'est 11, quoi. Ouais. C'est 11 logements, c'est quand même... Et puis, nous, on est bien contents de déléguer au chalet, de ne pas avoir à faire tous les contrats avec tous les artisans, les entreprises, etc. Nous, ça va nous faire du temps libre pour maintenant penser à comment on va vivre ensemble. Parce que les dossiers pénibles, on en a eu. Et là on peut bien le laisser à quelqu'un d'autre.
Les archives se vendent.
Mais lui, non, il a pas, il voulait pas faire la mission d'OPC, là, de suivi de chantier, il ne voulait pas. Et c'est vrai que le département nous a demandé d'avoir des chalets pour nous garantir le projet. Au début, on était réticents, comme Cécile disait, mais là vraiment, il nous tarde qu'il prenne le relais. Clairement.
On va envisager de passer au repas partagé maintenant, ce qui ne vous empêchera pas de continuer à discuter avec Cécile ou avec Stéphanie, hein, parce que Stéphanie, elle connaît le dossier tout autant que Cécile, donc vous pourrez continuer à discuter. Voilà, sinon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la prochaine conférence, donc, sera le 28 mars, si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un même, là parmi tout le monde, là, je ne sais plus, sur. Qu'est-ce qu'on a dit ?
Le
néolithique dans la vallée de la Garonne. Et sur. Donc voilà, ben, je vous souhaite de passer de l'autre côté.
Et bravo pour votre projet.
Merci. Thank you.